UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à une nouvelle émission en version originale, en français, avec Pierre Vivès sur Radio UMH, la radio de l'université Miguel Hernández d'Elche sur la Costa Blanca espagnole, et ce depuis l'année 2010, 15 ans déjà d'émissions en français. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous un représentant de la French Touch, du Made in France, Made in Europe, aux accents franco-italiens, mais où l'Espagne tient également sa place de choix. Le créateur, chausseur parisien, Philippe Zorzetto, CEO de la marque éponyme. Bonjour, monsieur Zorzetto.
Bonjour à tous.
Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons voyager de la ville d'Elche, capitale de l'industrie espagnole de la chaussure, à Paris, à l'univers de la chaussure haut de gamme, premium, avec un créateur et un chausseur parisien dont les souliers font rêver. Soyez donc le bienvenu chez nous sur Radio UMH, à nos émissions en français, voilà, qui voit également quasiment le jour en même temps que vous lancez votre marque Philippe Zorzetto en 2009, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. J'ai commencé, 2008 même. J'ai
2008,
commencé à travailler
même.
En 2008.
D'accord.
Sur ma marque et je dois vous faire une confidence. J'ai un lien très, très fort avec l'Espagne puisque... Au départ, je voulais produire mes créations en France et c'était très difficile pour moi en tant que jeune designer de trouver des ateliers. Et du coup, les premiers ateliers qui m'ont fait confiance, ce sont les Espagnols. Et c'est là où j'ai commencé à travailler. Ma première collection, je me souviens très bien, c'était à Elda, qui est dans la région de Elche, Valence. Et ce sont les ateliers espagnols qui m'ont fait confiance dès le départ.
Oui, Elda, qui est une ville dont le nom ressemble étrangement à celui d'Elche, puisque c'est les deux capitales. S'il fallait mettre une deuxième capitale de la chaussure espagnole, ce serait également Elda, qui a également une large tradition dans ce domaine. Et voilà, donc un petit coucou à nos voisins d'Elda.
Elda, Elche, il y a aussi Almanza, il y a beaucoup de villes. En fait, l'Espagne est un gros producteur de chaussures en Europe. Et contrairement à la France, l'Espagne a su préserver ses savoir-faire et ce patrimoine exceptionnel, je trouve.
Oui, que vous reprenez en ce moment également en France, déjà depuis donc une quinzaine d'années, quasiment 17 ans déjà.
Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de choisir les meilleurs savoir-faire pour produire juste, c'est-à-dire travailler avec des artisans européens, soit en France quand c'est encore possible, en Italie ou en Espagne. Voilà, qui sont pour moi les trois pays d'excellence en Europe et dans la chaussure et l'accessoire. Et en France, c'est très compliqué de produire car il y a de moins en moins d'ateliers, malheureusement. Et quand moi, je ne trouve pas en France, je travaille essentiellement en Italie, mais aussi en Espagne, sur certains produits très spécifiques où il y a un savoir-faire en Espagne qui n'existe nulle part ailleurs.
Oui, quels seraient ces produits par rapport à l'Espagne ?
Moi, je trouve qu'en Espagne, par exemple, sur la chaussure pour femmes, notamment tout ce qui est ballerine, tout ce qui est chaussure un peu d'été, il y a un savoir-faire extraordinaire, en fait. Il y a une longue tradition et je trouve qu'il y a une créativité aussi à des prix très intéressants. Pour un entrepreneur qui me parle. L'Italie, c'est véritablement la chaussure de luxe, c'est vrai. Je trouve que l'Espagne a un savoir-faire, mais à des prix qui peuvent être très intéressants. Et sur des chaussures d'été, moi, j'essaye malgré tout d'avoir une qualité-prix qui soit intéressante. Et du coup, parfois, je me tourne vers les savoir-faire espagnols.
Oui, c'est noté. On va poursuivre un petit peu cette émission parce qu'il y a également de sujets à aborder et le temps tourne court, toujours. Et là, je vais reprendre une célèbre citation en provenance de Coco Chanel, si je ne m'abuse.
Ouais.
À partir du moment où l'on a de beaux souliers, tout va bien. Souscrivez-vous ces propos?
Alors, Coco Chanel, elle a dit aussi des horreurs. Elle a
Ah oui.
dit une chose qui me fait beaucoup rire. Elle a dit, on n'est jamais assez maigre.
Oui, d'accord.
Mais bon, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on peut être très très chic avec un vieux t-shirt blanc, un vieux jean 501. Et si on a une très jolie paire de chaussures, beaux escarpins, beaux mocassins, beaux Richelieu, on est très chic. Et en fait, effectivement, la chaussure, c'est pas anodin dans un style. Je trouve que la chaussure, on dit beaucoup sur notre personnalité. Et
Oui.
d'ailleurs, beaucoup de femmes, quand elles ont une date, elles regardent les chaussures de leur compagnon, quoi. Donc, ça en dit beaucoup à la fois sur le rapport qu'on a avec soi-même, socialement aussi, c'est un marqueur. Voilà, donc en fait, les gens regardent beaucoup les chaussures.
Et c'est vrai que peut-être éventuellement, d'une manière traditionnelle, davantage les femmes que les hommes. Mais avec les hommes aussi, il y a un travail à faire. Et voilà, après, j'aimerais bien qu'on évoque également vos modèles, puisque je suis fan de vos bottines en particulier.
C'est vrai que moi, j'ai vraiment. Enfin, moi, je mets beaucoup de bottines. Hein, donc, c'est vrai que mes premières collections, elles étaient très axées sur les bottines. Et j'ai vraiment essayé de trouver les bottines les plus cool, les plus intemporelles, avec des touches un peu rock, mais élégantes. J'ai développé d'autres lignes, hein, notamment pour l'été. Beaucoup de mocassins aussi maintenant, qui représentent une énorme part de mon chiffre d'affaires. Et en plus, il y a une vraie tendance du mocassin qui est en train de grignoter la sneaker. On trouve de plus en plus de mocassins au pied de la nouvelle génération. Et ça me fait plaisir. Voilà, mais c'est vrai qu'au fil des saisons, j'ai développé des baskets, des espadrilles, des escarpins. Et j'ai vraiment voulu proposer comment dire,
Une large
une
panoplie
possibilité,
de
voilà, un
choix,
large
voilà.
choix
Oui.
à mes clients. Ouais.
Oui, voilà, oui, parce que je vois que vous avez donc les mocassins Serge sont déjà bien cotés, vos Richelieu Charles aussi sont magnifiques. Il y a vraiment énormément, on a vraiment énormément le choix. Et voilà, et vos sneakers aussi sont magnifiques, sont sublimes, sublimissimes. On n'a que l'embarras
Merci.
du choix.
L'idée, c'est de proposer, à partir du moment où la marque a un ADN fort, et j'ai beaucoup travaillé cet ADN, à partir du moment où on a cet ADN, on peut le développer sur plein de modèles différents. Et c'est ça qui compte, qu'on retrouve un style fort et identifiable, sur tous les modèles.
Oui. Voilà, juste maintenant pour rigoler un petit peu, là, je pourrais reprendre une autre citation. Je suis très cinéma, vous allez
Oui.
m'excuser. Elle provient du film américain Forrest Gump de
Oui.
Robert Zemeckis. On peut dire beaucoup de choses des gens en regardant leurs chaussures, où ils vont,
Oui.
où ils sont allés. J'adore cette citation en provenance du film.
Et moi, je rajouterais
Oui.
là où ils vont aller. C'est
Également,
presque le
oui.
plus important pour moi.
Tout à fait, tout à fait. Et voilà, donc on va découvrir également l'homme qu'il y a derrière donc la marque, Philippe Zorzetto, et sa création. Au départ, donc d'une personnalité affirmée, si je puis dire hors norme, vous décidez un jour, aux abords de la trentaine, de chambouler une destinée qui vous voyait plutôt portée à évoluer dans le milieu du droit, des sciences politiques. Je dois dire que aussi c'est le milieu dans lequel j'étais censé évoluer moi-même. Et moi aussi, j'ai fait
Comme
donc.
quoi le droit mène à tout.
Voilà, tout à fait. On est bien d'accord. Et.
Non, mais en fait, en réalité, c'est au-delà de. C'est vrai que quand on est très jeune, c'est pas facile de trouver sa voie et son chemin, son propre chemin. Et moi, j'avais fait des études de droit et de sciences politiques parce que je crois que ça rassurait un peu tout le monde. Et je me sentais pas totalement à ma place parce qu'en réalité, moi, je suis un entrepreneur et un créatif, mais je ne le savais pas. Et du coup, il m'a fallu un certain nombre d'années pour voir, me dire que j'avais envie de développer quelque chose de personnel, un peu en dehors des sentiers battus. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver son chemin et de lutter parfois contre des croyances sur nous-mêmes en réalité.
Oui, j'ai beaucoup apprécié. On a parlé justement lorsqu'on abordait un petit peu cette émission. Alors, vous avez réalisé une sorte de coming out créatif, donc qui était sans
Oui.
doute ancré dans votre
Mais
ADN,
oui,
puisque
c'est un
à
vrai
la
coming
base, en
out.
fait, vous avez toute une lignée familiale d'artisans, n'est-ce pas?
Oui, mon père était. Alors, moi, je suis né dans le sud de la France, d'ailleurs, à Carcassonne, qui n'est pas très loin de la frontière espagnole.
Oui.
Donc, l'Espagne est quand même dans mon ADN, hein, n'est pas très loin. Donc, mon père était menuisier. Donc, moi, j'ai toujours baigné dans l'artisanat, la matière, les belles choses. Et mon grand-père italien travaillait dans des ateliers de chaussures en Italie. Et quand il est venu en France, il a changé de métier, mais il a gardé les formes qu'il avait. Et du coup, moi, j'ai toujours baigné dans ça. Et j'ai toujours baigné dans le travail artisanal, faire quelque chose de ses mains, etc. Mais comme c'est des métiers assez durs, mes parents, ils voulaient que j'ai une vie, je dirais peut-être plus simple, en tout cas dans leur vision à eux. C'est pour ça que j'ai fait des études. Mais moi, en fait, je suis la troisième génération d'artisans, d'une certaine façon. Et j'avais besoin de reprendre le flambeau à ma manière.
Oui, eh bien, en continuant sur cette lignée, est-ce que vous pourriez évoquer votre, pour notre audience, cette Madeleine proustienne, si l'on peut reprendre cette métaphore littéraire, qui va déclencher un jour en vous un amour enfoui qui fait soudain surface, celui de la création, de l'amour pour l'univers des souliers, qui va vous porter à abandonner un parcours initial lié donc à d'autres domaines dont on parlait justement il y a un petit moment, sans doute plus réconfortant pour vos géniteurs, vos parents, qui souhaitait vous voir évoluer en dehors donc du tandem business-création, qui s'avère toujours risqué au regard de vos parents, n'est-ce pas?
Oui, c'est pas facile, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais dans un métier où je n'étais pas heureux, j'étais pas satisfait, j'ai arrêté en fait. Et à l'époque, j'habitais à Londres, je suis rentré à Paris, je savais absolument pas quoi faire. Et j'ai acheté une paire de chaussures d'une marque française dont je tairai le nom, et j'étais très déçu par la qualité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu cette paire que je trouvais cool en termes de style, mais qui n'était pas d'une qualité extraordinaire. J'ai vu la forme de mon grand-père, qui était en fait une forme, c'est un bel objet en bois qui permet de faire la chaussure. Et elles étaient dans ma bibliothèque, hein. C'était un bel objet, mais j'avais pas pensé. Et je vois cette paire de chaussures, je vois la forme de mon grand-père et je me dis, il faut que je fasse quelque chose avec. Et au départ, je jouais aux chausseurs, en réalité, comme un enfant qui joue. Mais au fond de moi, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être ma vie. Et à partir de là, j'ai fait mes petits dessins, mes petits découpages, etc. Et j'ai cherché des ateliers. Et en France, on m'a plutôt dit non parce que la plupart des ateliers, malheureusement, fermaient à cette époque-là. Et je me suis retrouvé en Espagne où là, on m'a dit, OK, c'est intéressant, on va t'aider à monter ta première collection. Voilà, donc une Madeleine de Proust, c'est vraiment mon univers familial, en fait. Vous voyez, je viens vraiment de cette lignée d'artisans, d'artistes aussi, parce que pour moi, un menuisier ou quelqu'un qui bosse dans un atelier de chaussures, c'est aussi, il y a une forte créativité. Et même si on ne le sait pas. Et voilà, et du coup, et après, il m'a fallu des années pour affirmer ma part de création, de créativité, comme vous le disiez, faire mon coming out de créatif. Et ça m'a pris beaucoup d'années, hein, au moins 5-6 ans après le lancement de ma marque. Hein.
Quand même.
Étonnamment d'ailleurs. Ouais.
Oui, je signale simplement pour nos auditeurs hispanophones hein, qui adorent le français et qui sont également une partie considérable de ceux qui nous écoutent que le mot forme en espagnol est hormas. Enfin,
C'est ça.
les villes
En
liées
masse.
donc aux chaussures, l'industrie de la chaussure le connaissent relativement, mais vraiment c'est au centre donc c'est vraiment le cœur de la chaussure.
On ne peut pas faire une belle chaussure si on n'a pas une belle forme qui soit extrêmement millimétrée. Et tout peut. C'est vraiment un travail très précis, en fait. Et le choix d'une forme est essentiel pour avoir une belle chaussure.
Oui, en reprenant donc cet atelier initial que vous avez trouvé à Elda, je crois, n'est-ce pas? Cet
Oui.
atelier artisanat, enfin, il y a eu comme une prédestination aussi, quelque chose de magique, puisqu'il y avait un prénom qui revient, non? C'est le
Oui.
prénom Angel, ange.
Angel,
D'accord, alors trois anges de grand-père qui ne parlaient pas français, qui ne parlaient pas anglais,
oui.
le père, pareillement, et donc et le fils. Donc vraiment, qui ont validé finalement enfin votre requête et cet
Ouais,
atelier.
en fait, j'ai eu un entretien avec chacun, avec le grand-père. C'était très difficile parce que moi, je parle pas espagnol. Puis le père, et quand j'avais été validé par le grand-père et le père, en fait, je pouvais travailler avec le fils qui, lui, parlait anglais. Et moi, je parle anglais. Donc voilà, j'ai commencé à travailler, mais j'avais été validé, ce qui prouve qu'en fait, on peut commencer quelque chose sans parler et qu'il y a d'autres façons de communiquer que les mots. C'est peut-être l'envie, l'énergie, la bonté, l'énergie qui passe entre les êtres. Et souvent, cette anecdote, j'en parle parfois parce que c'est vrai que on peut convaincre autrement qu'avec les mots.
Alors je le note en tant qu'enseignant de langues étrangères et je le retiens. Je veux dire, moi je crois profondément aux énergies également, hein, qui
Ouais.
découlent et qui font que le courant passe davantage ou moins, n'est-ce pas? On va faire
C'est
une
vrai.
petite pause musicale, quelques instants, et on revient tout de suite. Bon, et eh bien après cette petite pause musicale vraiment très courte, c'est le thème de Camille de Georges Delerue, un
C'est le
film
film Le Mépris,
Le Mépris avec Brigitte Bardot aussi. C'est
oui,
bon,
qui est mon film préféré.
eh bien ça tombe bien, ça tombe bien. Voilà, je souscris également donc cet amour donc du cinéma français classique extraordinaire en fait. Je veux dire, c'est
Oui, c'est Godard qui est un grand réalisateur et probablement le film Le Mépris, moi, m'a beaucoup impressionné. D'ailleurs, je suis allé en Italie à Capri. Parce que j'étais un amoureux de ce film et je crois qu'on retrouve des références dans mes collections parce que c'est pour moi un des films les plus beaux qui existent, quoi.
oui, justement, on a vraiment beaucoup de sujets à aborder et le temps s'écoule un peu trop vite, à mon goût. Alors, c'est que une chose à signaler pour les personnes qui ne vous connaissent pas forcément encore en Espagne, mais ça le devient de plus en plus, c'est que vous avez chaussé un grand nombre de personnalités. Je cite, en guise d'exemple, David Bowie, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, John Malkovich, Lenny Kravitz, Jean Dujardin, Mathieu Chédid, M. Romain Duris, Thomas Dutronc, Inès de la Fressange, et j'en passe. C'est quand même waouh, assez bluffant, n'est-ce pas?
C'est génial parce qu'en fait, ce sont des vraies rencontres à chaque fois et ce sont des artistes qui m'ont énormément nourri et qui me nourrissent encore. En réalité, moi, quand je fais des chaussures, quand je dessine des chaussures, je pense toujours à des gens. Et au début, je pensais à David Bowie que j'adore, à Lenny Kravitz, etc. Et j'ai eu la chance de les chausser. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, quand on fait quelque chose de créatif, qu'on aime vraiment un univers créatif, des personnes, eh ben on peut les rencontrer. Quand on parlait d'énergie précédemment, je crois qu'en fait, ils ont reconnu dans mon travail quelque chose qui leur parlait, qui les touchait, parce que moi, ils m'avaient tellement impressionné, j'avais tellement regardé leur style, ils m'avaient tellement nourri. C'est normal, en fait, que quand je propose des chaussures, ils retrouvent quelque chose de fort et qui leur parle, voyez. Donc c'est des très très jolies rencontres, c'est incroyable. Moi-même, j'en reviens pas.
Je comprends, je comprends parfaitement, ça fait vraiment rêver. Et ceci dit, vous arrive-t-il de créer des modèles en songeant à ces personnalités?
Presque tout le temps, parce que j'ai besoin de faire. Dans tous mes modèles, il y a des références créatives et artistiques. Alors ça peut être, on en parlait, l'univers du cinéma, de la musique, le style de certaines icônes. Parce que pour moi, David Bowie, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, sont des icônes, donc elles sont extrêmement... on a très envie de les chausser. Et puis, il y a aussi les artistes, les œuvres d'art, je sais pas, un tableau, etc., un petit élément. Et à chaque fois, dans les détails, quand on regarde bien mes modèles, on retrouve toujours des références artistiques. Et c'est parce que pour moi, c'est très, très fort de lier l'artisanat, qui est la chaussure, avec le monde créatif et toutes ces références culturelles.
Oui, alors, ceci dit, si vous aviez la possibilité de chausser d'autres personnalités qui vous font rêver, dont vous êtes dans l'admiration, vous avez quelqu'un en tête que vous n'avez pas encore chaussé, ou autrement, je vais vous proposer un petit jeu, d'accord ?
Allez,
c'est parti. Oui, on va y aller. Alors, comment seraient ces créations, par exemple, éventuellement pour des personnalités espagnoles telles que Pedro Almodovar, qui a tourné talon aiguille à Elche même, voyez-vous ?
Ah bah c'est incroyable. J'adore Almodovar et le cinéma espagnol. Almodovar.
Qu'est-ce que vous feriez pour Pedro Almodovar ? Qu'est-ce que vous lui proposeriez ?
Quelque chose de très fort, des talons rouges, beaucoup de couleurs, quelque chose de flamboyant pour lui. Ouais.
Oui. Rossi de Palma.
Qui est très souvent à Paris et qui est. Oui. Qui est aussi très liée à la mode avec Jean-Paul Gaultier, bah c'est pareil. Pour moi, d'ailleurs, c'est une actrice d'Almodovar.
Tout à fait, l'une des muses d'Almodovar.
Je lui ferais... justement, pour elle, en fait, je lui ferais quelque chose d'un peu androgyne. Parce qu'on pense toujours à quelque chose d'assez flamboyant. Moi, je la vois aussi dans sa part d'androgynie. Donc, je lui ferais de très beaux Richelieu en cuir verni rouge... un peu austère, mais avec une couleur forte.
Voilà. D'accord. Ce qui vient. Et voilà, je vais vous proposer une personne, quelqu'un de plus sérieux déjà, maintenant on est dans le formel, la reine Letizia d'Espagne qui adore la mode.
Bah, elle est aussi extrêmement, je la trouve très élégante, quoi. Alors tout dépend pour quelle occasion. Moi je trouve que... elle n'a pas besoin de mettre des talons pour être élégante. Moi, je lui proposerais un petit escarpin avec un tout petit talon, un peu années 60, vous voyez, de quelques centimètres, qu'elle pourrait porter aussi lorsqu'elle fait des visites officielles pour ne pas avoir mal aux pieds et en même temps rester élégante. Voilà ce qui me vient.
Oui, là on a presque fini, il nous reste à peine 5 minutes. Vraiment, ça tourne vraiment trop court. Vraiment trop rapide, hein. Faudrait faire une deuxième émission. Je tenais à insister quand même, signaler l'importance que vous accordez aux chaussures pour femmes.
Oui.
Parce que pour vous, les chaussures pour femmes sont faites également, il y a un côté artisanal, c'est le cousu à la main, le blick. Donc, les semelles qui sont cousues à la main, ce qui n'est pas habituel chez les femmes.
Oui, allez-y. Oui, alors, en fait, il y a deux types de constructions. Il y a les constructions industrielles, c'est-à-dire les semelles sont simplement collées. Mmh. Et c'est 95% des chaussures pour femmes aujourd'hui, malheureusement. Et donc, ce ne sont pas des modèles durables, ce sont plutôt des modèles jetables. On ne peut pas les réparer. Et moi, j'ai fait le choix d'utiliser ce qu'on appelle la construction cousue bleck, qui est traditionnellement réservée à la chaussure d'homme. C'est-à-dire que les semelles ne sont pas collées, elles sont cousues. Donc, on peut les enlever et les réparer. Donc, ce n'est absolument pas jetable et c'est beaucoup plus qualitatif. Et c'est vrai que moi, j'ai à cœur de proposer cette qualité pour les chaussures de femmes. Et malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Et c'est dommage.
Oui, déjà quasiment pour finir, j'ai peut-être deux questions là, puisqu'on ne peut pas en poser vraiment davantage. Comment décririez-vous une chaussure Philippe Zorzetto, s'il fallait la définir ?
La simplicité dans le détail et l'élégance intemporelle.
D'accord, c'est bien noté. Et peut-être aussi, moi, j'y ajouterais aussi également, c'est le luxe à un prix relativement abordable, peut-être, non ?
Absolument.
Chaussures premium, important aussi.
Premium, mais parce que là, après, il faut se poser la question, qu'est-ce que le luxe ? Pour moi, le luxe, c'est un beau produit fait main, qualitatif, qui va être conservé longtemps et qui est réparable. C'est ça le luxe pour moi. Et donc, c'est important qu'il reste accessible dans le sens où quand on achète une chaussure à un certain prix, bah, il faut la garder 20, 25 ans et au final, ça revient beaucoup moins cher qu'acheter deux paires par an jetables, vous voyez. Donc moi, j'aime cette notion de presque de transmission. On achète une jolie paire, on va presque la transmettre à son fils, à sa fille, vous voyez. Donc ouais, pour moi, c'est ça le luxe.
Et encore une chose, enfin, que je voudrais vraiment partager avec notre audience. Quels sont les projets d'avenir pour Philippe Zorzetto?
Alors, c'est des projets de développement internationaux, puisque la marque est bien implantée en France, à Paris, dans certains grands magasins parisiens. Mais l'objectif, c'est que que ma marque, en fait, soit également présente en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et du coup, je travaille actuellement sur le développement international de la marque. Et c'est une nouvelle étape de croissance pour moi.
D'accord. D'après une conversation qu'on a eue aussi, je crois qu'on peut avancer. Peut-être que vous êtes déjà en partenariat avec de grands magasins français. C'est exact.
Oui, avec le Bon Marché, qui est le grand magasin de la rive gauche et qui est un magasin extraordinaire parce que c'est vraiment un grand concept store, en fait. Il y a peu de place, donc les acheteurs de Bon Marché font vraiment attention pour avoir une proposition sélectionnée auprès de leurs clients, vous voyez, et ça me plaît.
D'accord. Et déjà, pour en finir vraiment, où se trouve la boutique Philippe Zorzetto classique, la première?
Alors, dans le Marais,
dans le haut
du Marais, au 89 rue de Turenne, dans le 3e arrondissement, qui est une très jolie rue, qui n'est pas très loin du musée Picasso, puisqu'on parle de l'Espagne, et pas très loin de tout ce quartier qui est le Marais, avec plein de boutiques de créateurs, et qui est mon quartier préféré à Paris.
Oui, donc vous y mettez déjà donc, cette touche arty et classieuse. Et nous vous remercions vraiment, vraiment de cette émission. Et voilà, quand les questions fusent et les réponses également, au gré d'une passion avérée, c'est ici qu'on prend conscience du plaisir d'avoir pu réaliser un entretien de qualité avec quelqu'un de passionné qui a le savoir-faire et le savoir transmettre dans son ADN. Un grand merci à Philippe Zorzetto pour cet entretien à travers lequel j'ai éprouvé le vif plaisir du partage d'un univers, celui des souliers qui me tient à cœur. Qui nous tient à cœur dans une ville comme Elche, qui s'érige en capitale espagnole de l'industrie de la chaussure, à travers ce parcours exceptionnel où le rêve d'un homme est au centre d'un projet qui s'affiche aujourd'hui en image de marque du Made in France de qualité pour les hommes et pour les femmes de goût. Un grand, grand merci.
Merci à vous.
Au revoir. Ciao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.